Les cours du Collège de France, Nalini Anantharaman, chère géométrie spectrale.
Donc aujourd'hui, on continue ce qu'on avait un peu commencé à aborder la dernière fois. Et donc, on va parler de graphes réguliers et le lien entre le spectre du Laplacien et la décroissance des corrélations du flot géodésique. Donc on va se donner un graphe fini avec des sommets et des arêtes, et on va supposer qu'il est Q plus 1 régulier. Donc chaque point a le même nombre de voisins. Et la dernière fois, on avait dit qu'on pouvait aussi le voir comme un quotient. Donc X, c'est son revêtement universel. C'est l'arbre infini régulier à Q plus 1, enfin de degré Q plus 1. On avait dit qu'une possibilité, donc j'avais appelé donc ce qu'on peut voir en quelque sorte, hein, entre guillemets, comme le fibré unitaire tangent du graphe, on avait dit c'est l'ensemble des suites d'arêtes orientées. Donc des suites, donc c'est l'espace en fait des géodésiques complètes paramétrées. Donc les EI sont des arêtes orientées. Et EI plus 1 est consécutive à EI. Donc l'origine de EI plus 1, c'est égal au point terminus de EI. Et puis, on interdit à EI plus 1 d'être égal à l'arête EI parcourue en sens inverse. On avait dit que c'était un candidat assez naturel à remplacer le fibré unitaire tangent sur le graphe et ce qu'on a appelé le flot géodésique. C'est simplement l'application de décalage qui consiste à prendre une géodésique et bouger le point base. Alors la dernière fois, on avait défini ça sur l'arbre, après on avait dit que ça passait au quotient. On peut aussi écrire cette définition directement sur le graphe. Et puis une petite remarque pour répondre à une question. Pour me simplifier la vie, dans ma notion de graphe, je vais supposer que mon graphe, c'est ce qui s'appelle dans la terminologie de Jean-Pierre Serre un graphe combinatoire, c'est-à-dire que je vais interdire d'avoir plusieurs arêtes qui vont entre deux sommets, qui joignent deux sommets, et puis d'avoir des boucles comme ça. Je vais interdire ça. Mais à vrai dire, c'est pas tout à fait nécessaire de mettre cette restriction. C'est juste, disons que si la plupart de ce que je vais dire marche pour des graphes assez généraux, la seule chose, c'est qu'il faut juste que je fasse attention. Si mon graphe ne satisfait pas cette restriction, il ne faut pas que je dise qu'une arête, c'est la même chose qu'une paire de sommets. C'est tout, c'est la même chose. Non, mais... Alors, une petite remarque. Donc le décalage, hein, c'est une application qui va de T1G dans lui-même. Et une petite remarque, c'est que il y a énormément de mesures de probabilité invariantes, hein, pour ce système dynamique. Donc il y en a énormément. Il y a par exemple, à chaque fois que j'ai une géodésique périodique, je peux mettre dessus une mesure invariante. Mais il y a aussi un autre type d'exemple. À chaque fois, je me donne une matrice stochastique, donc une matrice indexée par les paires d'arêtes orientées. Donc, à chaque fois, je me donne une matrice stochastique, en fait, indexé par les paires d'arêtes orientées. En fait, ça me définit finalement une chaîne de Markov Et je vais avoir une mesure invariante. Donc, si j'appelle, je vais toujours supposer que mon graphe est clonal. Je vais appeler mu la mesure invariante. Donc, c'est-à-dire la solution de mu p égale p. Donc ça, c'est une mesure en fait sur les arêtes orientées. Bah, à chaque fois que j'ai ça, je peux m'en servir naturellement pour définir une mesure invariante du flot géodésique, hein, simplement. En posant. Je vais appeler mu tilde. À chaque fois que j'ai une matrice stochastique et sa mesure invariante mu, je peux définir mu tilde d'une mesure sur le fibré. Enfin, sur le fibré unitaire tangent, je vais vous écrire l'expression de cette mesure sur les ensembles cylindriques. Donc, si je me donne des lettres, à chaque fois, je me donne un cylindre. Donc, vous vous souvenez, un ensemble cylindrique, c'est quand j'ai un ensemble de suites, c'est l'ensemble défini en prescrivant la valeur. De la suite, donc la valeur de la géodésique sur un bloc fini. Donc si je pose que mu tilde de ce cylindre, c'est mu de A moins N, et ensuite j'utilise la matrice de stochastique P comme matrice de transition. Donc quand je fais le produit jusqu'à... Donc, petit exercice, hein, vérifier déjà que ça définit bien une mesure et puis qu'elle est bien invariante par le flot géodésique. Donc ça fait encore une énorme famille de mesures invariantes. Et puis, ça peut même se généraliser à ce qui s'appelle les mesures de Gibbs, etc. Donc, il y a énormément de mesures invariantes pour le flot géodésique. Moi, je vais m'intéresser à une mesure particulière qui correspondrait, en fait, je peux prendre P, donc un cas particulier... C'est celui pour lequel on va obtenir les formules qui relient le spectre du laplacien et la décroissance des corrélations. C'est si je prends simplement PEE' qui vaut 1 sur Q. Si E et E' sont consécutifs, ce que je vais représenter comme ça, et puis 0 sinon. C'est une matrice stochastique qui engendre une marche aléatoire sur les arêtes orientées. Et là, c'est la marche aléatoire où on a une probabilité égale. Étant en une arête, on a une probabilité égale de sauter aux arêtes suivantes. Et donc là, la mesure invariante, ça va simplement être la mesure uniforme sur les arêtes.
D'accord.
Et donc, les formules que je vais écrire, elles vont être... Donc j'ai une mesure mu tilde associée par cette formule et les formules que je vais écrire vont être valables pour cette mesure-là. Ça sera, je pense, un exercice de réflexion, pour en particulier pour les étudiants, de réfléchir si j'avais un graphe qui n'est pas régulier, comment il faudrait modifier ces formules, qu'est-ce qui serait un petit peu naturel de prendre comme mesure. Voilà. Alors le théorème qui lie la décroissance des corrélations. Alors, la dernière fois, on avait parlé du laplacien, laplacien discret sur le graphe, et on avait dit que c'est presque la même chose que la matrice d'adjacence, parce que comme le graphe est régulier entre le laplacien et la matrice d'adjacence, la différence, c'est un multiple de l'identité. Donc, la matrice d'adjacence, hein, c'est une matrice indexée par les sommets, et qui vaut 1 si deux sommets sont voisins et 0 sinon. Alors, quelqu'un avait posé la question de savoir pourquoi... vous vous souvenez, on avait dit que le laplacien, c'est simplement A moins Q plus 1, l'identité. Quelqu'un m'a posé la question de savoir pourquoi pourquoi ça ressemble au laplacien sur une variété. Si vous regardez la formule, on avait dit que le laplacien F en un sommet X, c'est défini comme étant la somme sur tous les voisins de F de Y moins F de X. Donc en fait, on regarde tous les voisins, on fait la différence et on fait la moyenne de la différence sur une variété, en fait. Une manière possible de voir le Laplacien, c'est de dire que le Laplacien d'une fonction en un point x, je prends une petite sphère autour de x, une sphère de rayon R, et j'intègre, je fais l'intégrale sur cette petite sphère, donc la sphère de centre x et de rayon R, de la différence entre f de y moins f de x, et puis il faut diviser par le volume de la sphère, par l'aire de la sphère. Et puis il faut prendre la limite quand R tend vers 0. Donc ça c'est une manière de. Enfin c'est une manière de voir le Laplacien sur une variété. Donc si vous l'écrivez comme ça, je pense que vous voyez assez clairement l'analogie. Donc ça c'est une petite parenthèse. Donc on avait parlé des valeurs propres de la matrice d'adjacence. Et on avait dit que c'était pratique de les reparamétrer en écrivant que lambda i, c'est q puissance 1 demi plus i, je vais plutôt écrire un lambda j, isj plus q puissance 1 demi moins isj. Et sj, comme lambda i doit être réel, puisqu'on a affaire à une matrice symétrique, sj est soit un nombre réel ou soit un nombre imaginaire pur. Alors le théorème, on va prendre deux fonctions définies sur le fibré unitaire tangent, par exemple la valeur complexe, et on va dire assez suffisamment régulière. Et le théorème, il va concerner ce qu'on appelle la fonction corrélation, donc le produit scalaire. Alors là, justement, le produit scalaire, il est pour L2 de la mesure mu-tilde, définie là. Donc le produit, donc U et V sont deux fonctions, donc en termes physiques deux observables. On évolue l'observable V par le temps T du flot géodésique et on prend le produit scalaire avec U. Et on s'intéresse à ce qui se passe en temps grand. Donc ici le temps, on est avec un système dynamique à temps discret. Et puis je vais même prendre les temps positifs. Donc il y a un premier terme qui est le. Ça c'est le produit scalaire entre U et la fonction 1, c'est rien d'autre que la moyenne de U, et ça c'est la moyenne de V. Et ensuite, il y a une somme de ce qui va s'exprimer grâce aux fonctions propres du Laplacien. Donc c'est un plus. Donc il y a des termes qui décroissent exponentiellement en temps, et le taux de décroissance est relié aux valeurs propres du Laplacien. Et puis, il y a des coefficients là qui dépendent évidemment de U et de V, et que je vais devoir commenter. Donc il y a un terme comme ça, comme il y a une symétrie, S et moins S sont interchangeables, chacun de ces termes appartient en double, apparaît en double, une fois avec un signe plus et une fois avec un signe moins. Donc à chaque fois, en fait, il y a deux N termes ici. Il y a deux autres termes qu'on peut appeler des termes topologiques. 1 sur q puissance t, et on va voir, en démontrant le théorème, on va voir la signification de... Donc ça, c'est... Bon, j'ai changé de notation. Les fonctions s'appellent UEV, donc si vous me dites si je n'arrive pas à garder... Donc U1 et V1, ce sont les projections sur certains espaces de cohomologie, en fait. Projection orthogonale de UEV sur un espace qu'on va décrire, qui est de dimension petit b moins 1. Vous vous souvenez, b, c'était ce qu'on appelait on avait appelé ça le rang cyclique du graphe. Et donc ça, ce terme-là, c'est un espace qui a une interprétation en termes de cohomologie, entre guillemets, une cohomologie un petit peu simple sur un espace discret. Et puis, il y a la même chose pour moins 1 sur Q. Et là, c'est U1-1, V1-1. Donc, qui sont aussi... tous les deux, les projections de UEV sur un autre espace de dimension B-1. Voilà. Et puis, pour être tout à fait précis, en fait, là, on est en train d'essayer de diagonaliser le flot géodésique. Donc là, il y a des valeurs propres qui sortent. Il y a un cas particulier où il y a un bloc de Jordan qui va m'embêter à chaque fois pour écrire. Il y a un cas particulier, c'est le cas où la valeur propre lambda J est égal à plus ou moins 2 racines de Q, qui peut apparaître ou non. Certains graphes ont cette valeur propre et puis d'autres ne l'ont pas. Et quand il y a cette valeur propre, c'est toujours un peu embêtant parce que le terme, au lieu d'avoir vraiment une vraie diagonalisation, il y a un bloc de Jordan. Donc je pense que je vais l'écrire une fois et puis après, je ne les réécrirai plus. Donc si... Alors il y a deux termes qui apparaissent seulement s'il y a la valeur propre, soit 2 racines de Q, soit moins 2 racines de Q. Il faut voir que il y a une valeur qui joue un rôle un peu particulier, c'est 2 racines de Q, ça correspond à S égale 0, donc vous voyez c'est un point fixe de la symétrie. Et puis... moins 2 racines de Q qui doit correspondre à S égale probablement pi sur log de Q ou quelque chose comme ça. Donc par exemple, si 2 racines de Q est valeur propre, je vais avoir un terme un petit peu différent qui va être 1 sur racine de Q à la puissance T. Et puis là, je l'ai écrit une seule fois, il faudra toujours se souvenir qu'il y a ce problème qui peut éventuellement apparaître. Je vais avoir T0 V Donc, quand il y a un bloc de Jordan, il peut y avoir un terme linéaire qui sort. Et puis, il peut y avoir un autre terme du même style si moins 2 racines de Q est valeur propre. Alors, il faut prendre un petit peu de temps pour digérer... pour digérer. Donc ça, c'est juste ça, ça fait juste intervenir la moyenne de U et de V pour la mesure uniforme. Donc que dit ce résultat ? D'une part, il nous dit que U scalaire V rond sigma T converge quand T tend vers plus l'infini. On va s'intéresser à T tend vers plus l'infini. Il converge vers le produit entre la moyenne de U et la moyenne de V. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la propriété de mélange pour un système dynamique. Il y a une décorrélation. En temps grand, deux observables U et V deviennent indépendantes. Ça, c'est le fait qu'on trouve la moyenne des produits, le produit de la moyenne, c'est une propriété d'indépendance. et qui s'appelle la propriété de mélange pour un système dynamique. Et on voit en fait que même la vitesse de convergence est exponentielle en T. Et la vitesse de mélange est vraiment liée explicitement au spectre du laplacien. C'est quelque chose qui est très particulier pour les graphes réguliers, et il y aura la même chose pour les surfaces hyperboliques plus tard dans le cours. On voit aussi que si à la fois U et V sont de moyenne nulle, donc si U et V sont orthogonales aux fonctions constantes, on voit que les corrélations alors chaque fois ici c'est le produit scalaire L de 2 mu hein, donc on voit qu'elles tendent vers 0 exponentiellement vite, et ça implique que la mesure, si je regarde maintenant, je regarde sigma comme une isométrie Sigma, il agit de manière isométrique, comme il préserve la mesure mutilde, il agit de manière isométrique sur L2. Le fait d'avoir une décroissance, et il va préserver, je vais appeler L2 0, c'est les fonctions de moyenne nulle, les fonctions qui sont orthogonales aux constantes, donc c'est une isométrie. Le fait d'avoir des corrélations qui tendent vers zéro exponentiellement vite, ça implique que cet opérateur a un spectre absolument continu. Parce que les corrélations, si vous souvenez là, du théorème spectral pour les isométries, la définition de la mesure spectrale, c'est justement la mesure dont les coefficients de Fourier sont les corrélations. Donc ça implique... Donc, ça implique que si U est assez irrégulière. Alors, ça c'est très important. Il faudra que je dise que c'est suffisamment régulière. Il faudra préciser encore un peu l'énoncé. Si U est suffisamment régulière, alors sa mesure spectrale pour sigma est absolument continue. Ça se voit parce que voilà, c'est les coefficients de Fourier de la mesure spectrale tendent vers zéro exponentiellement vite. C'est une conséquence. Alors oui, il faut que je précise un peu. Alors ici, par exemple, suffisamment régulière, on va dire des fonctions localement constantes. Ce qui s'appelle les fonctions cylindriques. Hein. Donc, par exemple, ici, je suis dans un cadre discret, donc je suis en train de travailler sur un ensemble de suites. Donc, la topologie, elle est engendrée par les ensembles cylindriques. Et je peux prendre par exemple des fonctions qui sont constantes sur tous les cylindres d'une certaine taille. C'est des fonctions localement constantes. Par exemple, je vais prendre la fonction constante sur tous les cylindres d'une taille donnée. Pour un certain n, je me fixe un grand n et je prends des fonctions constantes sur tous les cylindres de taille n. Et bien dans ce cas-là, pour de telles fonctions, on aura Ça sera même une égalité à condition que T soit assez grand. En fait, normalement, c'est quelque chose qui est asymptotique quand T tend vers l'infini, mais si je prends des fonctions localement constantes, ça sera égal. Ça sera vraiment une égalité. C'est même pas un développement asymptotique, c'est une égalité pour tout T. Suffisamment grand, le suffisamment grand dépend de la taille des cylindres que j'aurais choisi. Donc en général, ce qu'on cherche, c'est un développement asymptotique décroissant exponentiellement vite de la fonction de corrélation. Ici, il se trouve, dans ce cadre discret, il se trouve que si on prend des fonctions cylindriques et qu'on attend suffisamment grand, on a vraiment si on attend suffisamment longtemps, on a vraiment cette égalité. Et enfin, dernière chose importante, c'est que sont ces coefficients-là qui apparaissent. Les TSJ et TSJ étoiles déjà si vous regardez donc si vous regardez juste d'un point de vue formel hein, donc ce sont des distributions donc ce sont des formes linéaires sur l'espace des fonctions suffisamment régulières donc ce sont des distributions. Par exemple, sur l'espace des fonctions cylindriques, ici. Et si, rien que d'un point de vue formel, en fait, si on a un tel développement asymptotique, vous pouvez vérifier qu'on a forcément, si l'énoncé est vrai, on doit nécessairement avoir que si j'applique... Alors, elles ont... Si j'applique la distribution, que je ne me trompe pas, je vais essayer de garder. Si j'applique la distribution TS étoile à U rond sigma moins T, alors ici toujours T est positif, T est un entier positif, ça doit être égal à Q puissance moins 1 demi moins IST. TS étoile appliquée en U. Autrement dit, si je transporte TS étoile par sigma moins T, donc si je transporte cette distribution par le flot géodésique, elle se retrouve multipliée par Q à la puissance moins 1 demi moins IS puissance T. Ça se voit, enfin, si l'énoncé est vrai, on a forcément ça, et ça se voit juste en transportant la fonction U. Et puis, pour la même raison, si je transporte les distributions TS, si je les transporte maintenant en temps positif par le flot géodésique, elles se retrouvent multipliées par la même quantité. Donc, en quelque sorte, ces distributions, ce sont des vecteurs propres, des fonctions propres généralisées pour le flot géodésique. Alors, d'un côté, cet énoncé contient deux choses. Il contient d'une part que le flot géodésique sur L2, sa mesure spectrale est absolument continue. Donc il n'a pas de fonction propre sur L2, en particulier à part les constantes. Et d'un autre côté, on peut construire des objets qui sont des sortes de fonctions propres, mais qui ne sont pas dans L2, qui sont des distributions. Et il se trouve que là, on va vraiment pouvoir le faire à la main. Mais dans un cadre général, hein, ça rentre dans le cadre de ce que David Ruelle avait appelé les états résonnants d'un système dynamique, quelque chose qu'il a introduit dans les années 86. Voilà, je crois que c'est un article de... Voilà, c'est la date de l'article. Je crois que le titre de l'article, ça doit être quelque chose comme Resonances of Chaotic Dynamical Systems. Je pense qu'il a publié d'un côté un article de maths et de l'autre côté un article de physique. L'idée, c'est que quand on a un système dynamique chaotique, on doit essayer, on ne sait pas toujours le faire, mais on doit essayer de tendre vers ce genre d'écriture où on doit essayer de trouver des espèces d'états propres de la dynamique, mais qui ne vont pas être des états propres L2, qui vont être des distributions. D'accord ? Donc en général, on ne sait pas toujours le faire. Là, depuis 20 ans, la construction de ces distributions a énormément progressé, en particulier grâce à la théorie de ce qui s'appelle les espaces de Banach anisotropes. Mais dans un cas tout à fait général, on ne sait pas toujours les construire. Il se trouve que ici, là, c'est un cadre très simple où on sait vraiment les construire à la main. Et puis voir en plus, ça c'est très particulier, encore une fois, au fait que la géométrie est homogène, on sait non seulement les construire, mais dire aussi qu'elles sont explicitement reliées aux fonctions propres du Laplacien. Et puis la dernière chose que j'en parlerai probablement à une autre séance, c'est que ces résonances de Ruelle, ce sont des sortes de fonctions propres généralisées pour le flot géodésique, mais elles ont une propriété supplémentaire. Alors, dans son article, Ruelle dit qu'elles doivent avoir une sorte de propriété de Gibbs. Mais sans dire tout à fait ce qu'il entend par là, et je pense qu'en fait, dans un cadre général, c'est pas évident en fait de dire ce que veut vraiment dire cette propriété de Gibbs. Dans ce cadre-là, je vais pas expliciter en détail ce que ça veut dire, mais elles ont une invariance supplémentaire que je vais formuler pour l'instant en termes assez vagues. Alors, les TS étoiles, elles sont entre guillemets invariantes. Par un autre flot, alors enfin je vais rester vague parce que dans le cadre discret ça demande un petit peu de temps de dire précisément ce que ça veut dire, mais elles sont invariantes par le flot orocyclique stable. Je mets vraiment entre guillemets. Et les TS, elles sont invariantes par le flot orocyclique instable. Elles ont, en plus de cette propriété de transport par le flot géodésique, elles ont une autre propriété d'invariance qui correspond à ce que Ruelle a qualifié de manière un petit peu vague de propriété de Gibbs. Alors, je vais essayer de faire ces calculs qui permettent de démontrer le théorème. Alors l'idée un petit peu maîtresse et qui est vraiment celle qui, pour ceux qui connaissent la théorie des espaces de Banach anisotropes, c'est vraiment l'idée de base, c'est comment, au départ on part d'un système dynamique qui a du spectre absolument continu sur L2, mais on veut faire apparaître du spectre discret, on veut faire apparaître des valeurs propres. Ça veut dire qu'il faut changer d'espace fonctionnel, hein. Pour ceux qui voient ça pour la première fois, l'idée vraiment c'est qu'en changeant d'espace fonctionnel, on peut On peut partir d'un spectre absolument continu et de faire apparaître des valeurs propres, donc du spectre discret. Et pour faire apparaître du spectre discret, en fait, il faut essayer de faire apparaître de la compacité. Donc il faut trouver des espaces de fonction sur lesquels la dynamique améliore la régularité, donc a une certaine propriété de compacité. Il se trouve que là, dans ce cadre-là, on peut vraiment le faire à la main. Donc il faut, voilà, l'idée de base, c'est trouver des espaces fonctionnels invariants par sigma. Et même des espaces fonctionnels sur lesquels sigma, en quelque sorte, améliore la régularité. Alors, au départ, on est sur les fonctions L2 pour cette mesure mutine. Mais je vais. Et il faut se souvenir, voilà, l'espace des géodésiques, c'est vraiment un espace de suite. Donc, je vais définir un sous-espace. Ça va être les fonctions L2 qui ne dépendent que des coordonnées de la suite à partir du rang K. Donc un élément, au départ une géodésique, j'ai dit c'est une géodésique complète infinie, donc une suite d'arêtes indexées par Z. L2 indice K, ça va être les géodésiques qui ne dépendent que des coordonnées à partir que de EK, EK plus 1, etc. Donc elles dépendent que de ce qui se passe dans le futur à partir du temps K. Alors, avec cette définition, d'une part, c'est clair que L2 indice K plus 1 est inclus dans L2 indice K. Et par ailleurs, alors je vais peut-être. Faut peut-être que je donne un nom à l'opérateur. Je vais appeler U, l'opérateur qui au départ va de L2 dans L2, qui a une fonction U associée U transportée par le temps 1 du flow. Voilà, j'aurais peut-être dû lui donner un nom tout de suite. Je vais l'appeler grand U. En fait, il se trouve que U, vous pouvez vérifier que il envoie L2 de K dans L2 de K plus 1. Donc il envoie L2 indice K dans un sous-espace strict de lui-même. Donc ça, c'est un premier exemple de ce qu'on peut appeler améliorer la régularité, en quelque sorte. Donc on va s'intéresser à son spectre. Alors je vais prendre par exemple K égale 0. Je vais m'intéresser à... prendre par exemple K égale 0, donc je vais... Oh, désolé, ma notation. Tout à l'heure, j'avais mis l'indice 0 pour dire qu'on était orthogonal aux constantes. Là, c'est pour dire que... par rapport au tableau précédent, les notations ne sont pas tout à fait cohérentes. Là, c'est pour dire qu'on s'intéresse au cas particulier K égale 0. Et maintenant, on va s'intéresser à l'adjoint. L'adjoint de U sur cet espace, L de 0, il s'exprime, c'est ce qui s'appelle, assez souvent, on appelle ça un opérateur de transfert. Hein, donc c'est... Il s'exprime comme ça, donc S de F en... Alors... Donc maintenant, je regarde que des fonctions qui vivent sur des suites d'arêtes infinies, mais en temps positif. Vous pouvez vérifier que l'adjoint de U, il s'exprime comme... 1 sur Q, et puis je dois faire donc je fais la moyenne de F sur tous ses antécédents regarde toutes les suites, donc c'est une moyenne, donc il y a 8 termes dans la somme, et c'est la somme sur toutes les arêtes E-1 qui précèdent E0. E0, c'était une arête orientée dans le graphe, E indice moins 1, je fais la somme sur toutes les arêtes possibles qui précèdent E0. Donc ça, c'est ce genre d'opérateur, c'est un cas simple de ce qu'on appelle assez souvent un opérateur de transfert. Et maintenant, je vais appeler L2 de 0m, c'est les fonctions qui dépendent de... C'est les fonctions L des fonctions qui ne dépendent que des coordonnées E0 jusqu'à EM. Donc ça, maintenant, c'est un espace de dimension finie. Ce L20M, lui, c'est un espace de dimension finie. Si le graphe est fini, c'est un espace de dimension finie. Et de nouveau, en fait, donc maintenant, on va s'intéresser au spectre de S, puisque le spectre d'un opérateur, c'est le même que le spectre de son adjoint. Et maintenant, S, donc bah, de nouveau, on peut dire que L2 de 0M-1 est inclus dans L2 de 0M. Et puis en fait, on peut vérifier que S, il envoie L2 de 0M sur L2 de 0M-1. Alors ça, c'est vrai si M est supérieur ou égal à 1. Et puis sinon, il envoie L2 de 0,0 dans lui-même. Alors L2 de 0,0, ça c'est la même chose, c'est les fonctions sur les arêtes. Hein. Donc ça, si je suis en... Ça c'est la même... Si je suis... Comment ? C'est les fonctions L2 sur les arêtes orientées. Donc c'est un espace de dimension. Si le graphe est fini... La dernière fois, j'avais utilisé grand N, c'était effectivement le nombre de... Grand N, c'est le nombre de sommets. C'est le même grand N, d'ailleurs, qui apparaissait dans le théorème tout à l'heure. Hein, c'est le nombre de sommets. Et du coup, les arêtes orientées, il y en a N fois Q plus 1. Donc là, on a encore une fois un exemple. On est tombé sur un opérateur qui améliore la régularité. C'est ce qu'on va de M à M-1. Et à la fin, on s'est ramené juste à étudier le spectre de cet opérateur sur l'espace des fonctions sur les arêtes orientées. Et sur les arêtes orientées, en fait, sur L2 des arêtes orientées, l'opérateur de transfert S, c'est rien d'autre que... Alors c'est 1 sur Q fois... Alors je ne me souviens plus si la dernière fois j'avais parlé de l'opérateur... Enfin, j'en avais peut-être pas parlé. Il y a une matrice B dont le spectre a été pas mal étudié qui s'appelle... alors que je ne me trompe pas... Ah non, c'est B étoile. Je vais l'appeler. C'est B étoile. Alors B, on l'appelle parfois la matrice de Hashimoto. C'est une matrice indexée par les arêtes orientées, donc qui vaut 1. Bon, c'est qui vaut 1 si E' suit E. Et du coup, son adjoint, et puis qui vaut 0 sinon. Et B étoile, c'est la même chose, mais en inversant le temps. Donc, B de E', c'est 1. Bon, je vais garder le même dessin, et voilà. Ça, c'est B étoile. Donc, en fait, l'opérateur de transfert S, juste au facteur Q près, qui est juste un facteur de renormalisation, qui fait que ça devient une matrice stochastique, mais c'est le B étoile, là, c'est la matrice de Hashimoto. Et il se trouve que pour un graphe régulier, le spectre de cette matrice, il est relié de manière complètement explicite au spectre de la matrice d'adjacence. Alors, cette, attention, le spectre de B ou de B étoile est directement relié à celui de la matrice d'adjacence. Alors, encore une fois, donc, la matrice d'adjacence, c'est une matrice NN, symétrique, donc son spectre est réel. Par contre, B et B étoile, leur dimension, c'est... Donc, c'est des matrices N fois Q plus 1, 3N fois Q plus 1, et elles ne sont pas symétriques. Donc, en particulier, on va trouver que leur spectre ne va pas être réel, mais il y a des relations explicites entre les deux spectres. Et là, quand on parlera de surface hyperbolique, il y aura vraiment la même chose, que le spectre du laplacien et le spectre du flot géodésique sont reliés de manière explicite. Alors, je vais... On a le... La propriété suivante, je vous laisse, c'est un calcul simple que je vous laisse faire. Donc, comme tout à l'heure, je vais utiliser la paramétrisation des valeurs propres de A. Je vais remplacer le paramètre lambda par les paramètres S ou moins S. Et puis, je vais doter epsilon de S, c'est Q puissance 1/2 plus IS. Alors, ce que vous pouvez vérifier, c'est que si... J'ai une fonction propre de la matrice A pour la valeur propre lambda. Si je pose F indice S, alors c'est là que je dis, je me facilite un peu la vie pour les notations, c'est-à-dire je suppose que me donner une arête orientée, c'est la même chose que me donner une paire de sommets voisins, mais en réalité, c'est vraiment juste pour me faciliter la notation. Mais voilà. Donc, si j'ai une arête x, y, je vais poser f indice s qui est psi de y moins epsilon de s psi de x et puis f indice moins s. Psi de y moins epsilon de moins s psi de x. Vérifier que le résultat, c'est que on a b de f indice s qui est égal à alors que je me trompe pas, oui, qui est égal à 1 sur epsilon s fs. La même chose avec moins, c'est vrai avec le plus et le moins. Donc, en général, une valeur propre du laplacien donne deux valeurs propres de B. Il y a juste des cas particuliers. Donc, une valeur propre. De la matrice d'adjacence donne deux valeurs propres de B ou de B étoile. Alors, une petite remarque, c'est que B et B étoile, elles sont conjuguées. Donc, c'est pas, si je connais. Je pense que ce que j'ai écrit, c'est pour la matrice B, mais si je voulais. En fait. B étoile est conjuguée à B juste par l'involution qui consiste à inverser les arêtes orientées. Donc, si I c'est une involution, IF de E c'est F de E moins 1. J'ai une involution sur les arêtes orientées qui consiste à renverser le sens. Et B et B étoile sont conjugués. Donc, à partir du moment où je connais les fonctions propres de B, je connais aussi celles de B étoile juste en inversant le sens de l'arête. Alors, il y a certaines valeurs particulières. Parce que si donc, la valeur propre triviale, lambda égale 1, Vous voyez que vous aurez, si vous faites le calcul, si vous prenez la valeur propre triviale, vous aurez un des deux epsilon. J'aurai, alors le S va valoir I sur 2, ou moins I sur 2. Donc vous en aurez un qui va valoir, que je ne me trompe pas de sens, qui va valoir 1 sur Q, et l'autre qui va valoir 1. À chaque fois, je dois avoir le produit hein, epsilon de S fois epsilon de moins S qui doit valoir 1 sur Q. Et puis, la fonction propre associée, c'est les fonctions propres constantes. Donc, dans ce cas particulier-là, vous récupérez seulement une fonction propre parce que l'autre est nulle. Parce qu'une des deux fonctions là, l'autre va être nulle. Un autre cas particulier, bon, qui peut arriver ou non, c'est lambda égale moins 1. Ça c'est. Non, je... pardon. Ah oui, pardon, là je suis en train de parler de valeur propre de la matrice d'adjacence. Donc là, c'est la valeur propre triviale, c'est Q plus 1. Donc ça c'est ce qui s'appelle les valeurs propres triviales, qui correspondent donc Q plus 1, ça correspond aux fonctions propres constantes. Et une valeur propre qui peut apparaître ou pas, c'est l'opposé, c'est moins Q plus 1. Elle ne peut apparaître que si le graphe est biparti. Donc biparti, ça veut dire qu'on peut colorier les sommets en deux couleurs, de sorte qu'un point soit jamais de la même couleur que son voisin. Certains graphes sont comme ça et d'autres pas. Donc si le graphe est biparti, on obtient le graphe est biparti si et seulement si moins Q plus 1 est valeur propre. Et les fonctions propres associées, c'est les fonctions qui valent 1 sur les sommets rouges et moins 1 sur les sommets bleus, par exemple. Donc on aura le même phénomène. Un cas particulier un peu différent, c'est le cas que j'ai déjà abordé tout à l'heure. Si ma valeur propre, c'est 2 racine de Q, dans ce cas-là, bah, S égale 0, donc S égale à moins S. Donc là, j'obtiens... la formule-là me donne deux fois la même chose, me donne deux fois la même fonction propre, mais par contre, j'ai bien une valeur propre de multiplicité 2. Par contre, j'ai un bloc de Jordan. Donc, par exemple, je vais prendre F0 alors ici le epsilon c'est 1 sur racine de Q et puis je peux la deuxième fonction que je vais définir, ça ne va pas être une fonction propre, mais ça va être. Je vais avoir un bloc de Jordan. Donc je peux prendre. Si je veux. Bon, ça c'est. Si je la veux orthogonale à la précédente, je pense qu'il faut prendre cette normalisation. Hein, donc j'ai. Dans cette base, modulo les erreurs de calcul, la matrice B, elle s'écrit. Comme racine de Q, et puis j'ai un bloc de Jordan. J'ai quelque chose non nul ici au-dessus de la diagonale. Donc elle reste de multiplicité 2, mais elle n'est pas semi-simple. Et puis j'ai le même phénomène pour moins 2 racine de Q, où j'ai aussi un bloc de Jordan. Donc la matrice B, elle est presque diagonalisable. Le seul cas particulier, c'est qu'elle peut avoir des blocs de Jordan de taille 2. C'est assez rare, hein, peut-être Ça vous paraît normal, mais en fait, c'est pour, quand on a une matrice qui n'est pas symétrique, c'est assez rare qu'elle soit diagonalisable. Donc, c'est quelque chose d'assez remarquable. En particulier, si vous essayez de réfléchir à ce qui se passe, si on essaye de faire la même chose sur un graphe qui n'est pas régulier, on n'aura pas ce phénomène. C'est vraiment assez particulier là que la matrice, bien que n'étant pas symétrique, elle est quasiment diagonalisable, sauf éventuellement ces blocs de Jordan de taille 2 qui peuvent apparaître. Alors, si vous comptez combien de valeurs propres on a obtenues comme ça, vous verrez qu'on n'a pas le compte. Si on compte, alors supposons que le graphe ne soit pas biparti, donc on n'est pas ce cas particulier là. Mais si on compte combien de valeurs propres on a obtenues, donc pour les valeurs propres non triviales, il y en avait n-1, et on a vu que chacune donnait deux valeurs propres de B. Et puis on a aussi la valeur propre triviale qui a donné une valeur propre. Donc là pour l'instant on a expliqué 2n-1 valeur propre de B, alors que B c'est une matrice de taille n fois q plus 1. Donc ça veut dire qu'il nous en manque. Et les autres, bon, on va essayer de les retrouver, mais on va voir qu'elles ont une interprétation purement topologique. Bon, pour trouver les autres, on va simplement se dire, supposons que j'ai une fonction propre de B, dans quel cas est-ce qu'elle provient d'une fonction propre du Laplacien, et sinon, d'où elle pouvait provenir. Donc supposons... Supposons que j'ai une fonction propre de B pour la valeur propre mu. Et on va poser... Donc à partir de donc f c'est une fonction sur les arêtes orientées. Je vais définir à partir de f, je vais définir une fonction sur les sommets. Alors quand on parlera un petit peu de l'interprétation cohomologique, cette opération ça sera le d étoile. Donc pour x un sommet, je vais poser d étoile f en x, c'est la somme sur toutes les arêtes qui partent de x de f de e. D'accord ? Donc le d étoile, en fait, il prend une fonction définie sur les arêtes et il lui associe une fonction définie sur les sommets. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, un calcul aussi que je vous laisse faire, qui est assez élémentaire, c'est que si d étoile f n'est pas la fonction nulle, alors ce d étoile f est une valeur propre de A. D étoile f est une fonction propre de A. Donc ça veut dire que les fonctions propres qui nous manquent, donc là, ça veut dire que dans le cas où d étoile f est non nulle, la fonction propre f, elle venait d'une fonction propre de A, donc celle qui nous manque, donc les fonctions propres manquantes, ça je vous laisse faire le calcul, mais les fonctions propres manquantes elles sont solutions de, d'une part, donc BF égale mu F, et d'autre part, D étoile F égale 0. Alors, si on met les deux ensemble, on voit que mu peut être égal que à plus ou moins 1. Pourquoi ? Parce que B étoile F, BF égale mu F, ça veut dire que si je fais la somme, sur 3, bon là je fais toujours le dessin, ouais, je fais toujours mes dessins avec tout plus 1 égale 4. Donc BF égale mu F, ça veut dire que si je fais la somme des valeurs de F sur Q, donc ici Q égale 3, sur Q arête, qui partent du même sommet, ça fait mu fois la valeur de F sur l'arête manquante qui arrive à ce sommet. Donc ça, c'est ce que signifie que BF égale mu F, et puis D étoile F égale 0, ça va me dire que si je fais cette même somme, de F sur Q arête qui part d'un sommet, je récupère moins l'arête manquante. Hein, donc si les deux ensemble, ça va m'impliquer que F de E égale moins mu F de E moins 1 pour tout E. Mais comme l'opération qui a E associe E moins 1, c'est une involution, les seules possibilités, c'est mu égale plus ou moins 1. Oui ?
Je crois que dans la définition de la matrice d'Hashimoto, il fallait supposer que E, ce n'était pas l'inverse de E prime, quand ça vaut 1 dans la matrice d'Hashimoto.
Oui, mais oui, oui. Effectivement. Mais cela dit, j'ai juste exprimé le fait que BF égale mu F, ça veut dire justement, je somme sur. BF égale mu F, ça veut dire que si je somme sur toutes les arêtes sauf une qui part d'un sommet, je récupère mu fois la valeur de F en l'arête manquante qui est arrivée.
C'est juste, je crois, dans la définition j'ai...
Oui. Ah, j'avais oublié de dire. J'avais fait un dessin. Enfin, oui, il faut que E et prime soient consécutives et que prime ne soit pas l'inverse de E. Oui, pardon, j'ai peut-être été trop rapide. Donc, on voit, en fait, ces deux conditions ensemble impliquent qu'on doit avoir F de E égale moins mu F de E moins 1. Et comme l'opération qui a E associe E moins 1, c'est une involution, j'ai que deux possibilités, c'est que mu, c'était soit la valeur propre plus 1, soit la valeur propre moins 1. Et puis, autre proposition. C'est que si... Donc maintenant, on va s'intéresser... Ça veut dire que les valeurs propres qui nous manquent... De toute façon, les valeurs propres qui nous manquent, c'est uniquement plus 1 et moins 1, mais il faut se demander quelle est leur multiplicité. Donc ça, bon, je vais pas le faire aujourd'hui. Mais... Autre proposition, c'est que si... Donc, je vais m'intéresser, par exemple, au cas plus 1. Si BF égale F... Et là, il y a une autre condition qui est intéressante. Et si le rang cyclique est différent de 1, puisqu'on avait vu déjà la dernière fois que le cas B, c'est le rang cyclique, c'est le nombre de cycles indépendants dans le graphe. Alors nécessairement, on doit avoir D étoile F égale 0. Hein, donc à partir de maintenant, on va toujours supposer que le rang cyclique est différent de 1. De toute façon, le cas où le rang cyclique égale 1, il est assez différent et il est assez simple à comprendre puisqu'on a juste un cycle et puis éventuellement des petits arbres attachés au cycle. Donc Donc à partir de maintenant, on supposera toujours que B est différent de 1. Et en fait, donc le corollaire de ça, c'est que en supposant que le noyau de B est moins l'identité, donc le sous-espace propre associé à 1, c'est exactement, il a une interprétation cohomologique, c'est exactement l'espace des solutions de D étoile F égale 0 et F de E égale moins F de E moins 1. Et cet espace, donc, on calculera sa dimension, donc peut-être soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, il est de dimension petit b. Et puis, là, la même chose pour mu égale plus 1. Mu égale moins 1, pardon. C'est que le noyau de B pour la valeur propre moins 1, donc le noyau de B plus identité, ça, c'est exactement la même chose que les solutions de D étoile F égale 0 et F de E égale F de E moins 1. Et alors lui, il est de dimension B si le graphe est biparti et B moins 1 sinon. Alors je le démontrerai la prochaine fois. Enfin, ça prend quelques lignes, mais c'est assez intéressant. Juste une petite remarque. Donc on verra aussi l'interprétation de ça un peu en termes de cohomologie, mais un peu simpliste sur les graphes. Mais ça aussi. Une interprétation en termes de réseau électrique. Enfin, c'est la même chose finalement. Si vous lisez le livre de Michel Audin qui s'appelle La formule de Stokes, qui est une œuvre littéraire, mais qui explique comment la cohomologie est née à partir de l'électrostatique, c'est exactement ça. En fait, les lois de l'électrostatique, au fil des années, elles ont abouti à donner la théorie de la cohomologie. Et là où je dis que je vois un réseau électrique derrière ça, c'est que faut interpréter F comme un courant électrique. Enfin, si vous interprétez le graphe comme étant des fils électriques, F c'est la tension de chacun des morceaux. Donc c'est la différence de potentiel entre les deux sommets. Donc dire que F de E c'est moins F de E moins 1, c'est dire que si j'inverse le sens de l'arête, la différence de potentiel est inversée. Et qu'est-ce que je dis ? Oui, c'est aussi. Enfin, d'une part, la loi d'Ohm me dit que la différence de potentiel, c'est proportionnel à l'intensité. Donc F, c'est à la fois la différence. On va mettre une résistance 1 sur chacune des arêtes, parce que là, on est sur un graphe combinatoire. La dernière fois, des gens m'ont parlé de graphe métrique. Sur les graphes métriques, il faut mettre une résistance sur chaque arête. Donc F, ça va être l'intensité, mais qui est proportionnelle à la différence de potentiel. Et D étoile F, c'est la loi d'Ohm, c'est de dire que si je fais la somme des intensités qui partent ou qui arrivent à un sommet, D étoile F égale 0, c'est dire que qu'on doit satisfaire la loi de Kirchhoff. Pardon. Et voilà, donc, et puis, je pense que ça va être l'heure de s'arrêter. On continuera un petit peu, on continuera ça la semaine prochaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.